Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Pablo Servigne. Pablo Servigne est chercheur indépendant. Il est à l'origine avec Raphaël Stevens du terme de collapsologie, ce domaine de recherche interdisciplinaire qui étudie l'effondrement global de notre civilisation industrielle et ce qui pourrait lui succéder.
On baigne dans une odeur de gaz et on ne sait pas d'où viendra l'étincelle.
Avec leur livre « Comment tout peut s'effondrer », ils ont articulé les données scientifiques aux aspects émotionnels de l'effondrement. Ils ont largement contribué à décloisonner les esprits et à ouvrir le débat sur ce sujet anxiogène.
Peu à peu, les gens prennent conscience et les gens connectent les événements entre eux et se disent « Ouais, il y a quelque chose de plus grand qui se trame ».
C'est un livre qui a souvent provoqué un choc chez les lecteurs parce qu'il réussit à mettre un mot sur un sentiment diffus et qu'il permet d'ouvrir les yeux sur le tableau global.
Jusqu'à très tard, pour moi, les émotions, c'était ridicule, c'était risible.
Nous avons parlé de l'effet du livre et des autres tomes à venir, des scénarios possibles pour le futur, du rôle de la fiction, de transition intérieure et d'émotion, et d'espoir actif.
Juste agir aujourd'hui, ce qui te semble aligné avec ta posture, etc. Et y aller, même si on n'a aucune chance, tu y vas. C'est ça l'espoir actif.
Pablo Servigne, bonjour.
Bonjour.
Tu es ingénieur agronome de formation. Tu as quitté le milieu universitaire pour devenir chercheur interdépendant. Tu es à l'origine avec Raphaël Stevens du concept de collapsologie et auteur notamment du livre « Comment tout peut s'effondrer » et « L'entraide, l'autre loi de la jungle » avec Gauthier Chapelle. Donc, je voudrais d'abord savoir, depuis la sortie du livre, donc il y a 3 ans ou 4 ans.
C'était en 2015, avril 2015, du coup, il y a 3 ans.
Ouais, il y a 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour le livre, pour comment tu expliques le succès?
C'est assez étonnant. À la base, la maison d'édition a fait le seuil, donc c'était un pari quand même. C'était pas gagné d'avance. Ils étaient un peu timides, disons. C'était poussé par l'éditeur Christophe Bonneuil, la collection Anthropocène. Et en fait, ils y croyaient moyen et on était étonnés que c'était tout de suite dans les meilleures ventes de la collection. Et c'est un thème qui est sombre apparemment, qui est noir. On pense que les gens, ils vont pas s'intéresser à ça, ils vont rejeter ça, ils vont le mettre sous le tapis. Et ça a été un peu le cas. Mais ceux qui l'ont lu, bizarrement, ils l'ont distribué à tout le monde. Il y a eu un bouche à oreille extrêmement fort.
Ils l'ont offert à Noël.
Ils l'ont offert à tout le monde. Alors, on a plein d'anecdotes là-dessus, c'est marrant. Il y a des gens qui l'ont acheté, qui le posent sur la table de nuit, mais qui le regardent, ils osent pas le lire et ils se disent bientôt je le lirai, mais ils trouvent pas encore le courage. Et du coup, on a été étonnés par la presse qui a tout de suite réagi. Le premier article, c'était Les Échos et L'Écho. Les deux journaux économiques en France et en Belgique, c'était fou. Et puis de fil en aiguille, ça a pas mal fonctionné parce que il y avait ce côté, c'est le Seuil qui publie, donc c'est assez sérieux, c'est universitaire, c'est référencé, c'est cohérent. Il y avait pas moyen de nous piéger. On n'a jamais eu de critique scientifique. Et en même temps, on inventait un nouveau mot. C'était curieux. Et puis, je cherchais pas à faire peur, en fait. C'était la posture qui, je pense, nous, on s'exposait, Raphaël et moi, on racontait notre vie un peu dans le livre. Alors, on a eu du mal, hein. Au début, ils voulaient pas qu'on l'écrive. Et puis, je pense que c'est ça qui fait le côté subjectif de notre parcours, qui a fait que ça a plus ouvert à la lecture. Ça ouvre, je sais pas comment dire, ça ouvre des canaux, ça ouvre les émotions, ça ouvre plein de choses. Il fait qu'on, du coup, on prend beaucoup plus facilement, le lecteur prend les chiffres plus facilement. Donc, effectivement, il a du succès depuis 3 ans. Alors, ce qui est bizarre, c'est que depuis la sortie de l'entraide, il y a, je sais pas, 6 mois, ça a provoqué une relance des ventes de Comment tout peut s'effondrer. Et il se vend beaucoup mieux que l'entraide. C'est bizarre.
Du coup, on a l'impression quand même que le discours difficile à entendre. Ça devient audible justement parce que vous parlez d'émotions, etc. Et toi, t'es pas mal passé dans des émissions diverses et variées, mais il se dégage de toi beaucoup de sérénité et de calme, et ça contraste énormément avec le discours qui est difficile à entendre. Est-ce que comment tu réussis à être aussi à avoir l'air en tout cas aussi posé?
Ben c'est comme ça, ouais. Je crois que ça joue. On me l'a déjà dit plusieurs fois. J'ai fait 4 ans d'éducation permanente, on dit en Belgique éducation populaire, où j'ai été amené justement à faire mes armes là, en fait. Avant j'étais chercheur, donc je faisais des conférences en anglais, en français. Je suis habitué aux conférences et aux chiffres catastrophiques. Enfin, très tôt, je parlais d'effondrement de la biodiversité, etc. Et au contact de plein de publics différents, des publics ouvriers, des publics militants, associatifs, politiques, etc. J'ai vu les diverses réactions qu'il y avait face à tous ces chiffres. Et moi, du coup, j'ai fait mes armes, c'est-à-dire que j'ai appris par essai-erreur à dire certaines choses et pas dire d'autres. Et je le dis souvent, c'est-à-dire qu'une fois, j'ai été invité à un cours, je crois que c'était à Louvain-la-Neuve, on m'a demandé de faire un cours sur le climat, les catastrophes et tout, de 4 heures. J'ai tout donné, j'ai fait le truc le plus scientifique, le plus carré, le plus objectif possible, mais j'ai détruit le public. Ils m'en voulaient, quoi, ils étaient dans la colère, ils étaient blêmes, ils allaient fumer à la pause, c'était horrible l'ambiance. Et moi, je croyais bien faire, je croyais les informer, tu vois, et c'était passionnant. Moi, j'ai découvert des trucs passionnants, donc je transmets des trucs passionnants. Mais c'est là que j'ai compris que on pouvait pas tout dire à n'importe qui, mais c'est comme le rire, hein. On peut dire rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et là, c'est un peu pareil, il y a la manière de le dire, avec les mêmes chiffres, si tu le dis de telle ou telle manière, tu vas avoir des effets très différents. Donc, faut s'adapter à chaque public, et puis faut pas parler avec la tête. Faut parler ancré et avec le cœur, le ventre, quoi, avec ces choses vraies. Et ça passe beaucoup mieux.
Et du coup, on a quand même l'impression là ces derniers mois que ce thème-là de l'effondrement est de plus en plus présent auprès du grand public, dans les médias ou dans les mêmes discussions. Est-ce que tu peux commenter ça? Est-ce que t'as un avis de comment ça, pourquoi ça arrive?
Ah bah oui, il y a eu pas mal d'événements, des déclics, j'appelle ça, des événements majeurs, que ce soit l'élection de Trump, les attentats du Bataclan, enfin les attentats terroristes en France, les vagues, j'aime pas parler de ça, mais les grandes arrivées de migrants, ça a été très présent et en fait peu à peu les gens prennent conscience et les gens connectent les événements entre eux. Et se disent, ouais, il y a quelque chose de plus grand qui se trame. Et forcément, le mot effondrement revient. En fait, c'est quelque chose que nous, on n'a pas du tout inventé, hein. Ça existe depuis longtemps. Il y a des passionnés de ça dans le milieu anglophone, les milieux survivalistes. Je dis les milieux parce que c'est très diversifié. Et voilà, ils en parlent souvent depuis des années, largement avant 2015. Donc nous, on arrive, ce qu'on a fait de nouveau avec ce livre, c'est qu'on a permis à des gens qui avaient pas, c'est très cloisonné, hein, la pensée. Donc on a permis en gros beaucoup d'intellos universitaires, urbains, des gens de gauche, des gens qui n'ont pas l'habitude de penser ça, les catastrophes, et même les écologistes, les vieux des années 70, on les a surpris. Donc on a permis de faire avancer la question et de l'ouvrir à des gens qui étaient pas du tout ouvert à ça. Donc, en l'amenant de telle manière, assez, disons, douce, mais scientifique, ça a permis d'ouvrir. Et du coup, ça se connecte. Ils se rendent compte que, il y en a qui en parlent depuis longtemps, etc., etc. Donc, ça fait tache d'huile, boule de neige. Et à chaque événement majeur, à chaque catastrophe, eh ben, ça relance, ça fait écho, en fait, ça relance le truc. Ouais.
Et du coup, ouais, moi, je trouve que c'est justement ce caractère systémique qui est dont on prend conscience dans le livre, et c'est effectivement pas le cas d'habitude quand on lit tel ou tel sujet, parce que voilà, c'est une pensée en silo, et donc c'est évidemment, il y a des catastrophes, mais elles sont beaucoup moins fortes quand on les prend indépendamment. Quel genre de cascade d'événements t'imagines qui pourrait se passer là dans un futur proche?
Alors là, là dans la fiction, il y a plein de trucs possibles. Justement, je suis en train de m'initier à la fiction et au scénario. Enfin, les prospectivistes, ils utilisent déjà la méthode des scénarios, mais bon, c'est très cadré. Mais j'ai envie. En ce moment, je lis plein de romans en fait post-apocalyptiques. Il y a tout et son contraire. Il y a des choses vraiment sympas, des bonnes idées. Parfois, c'est bien mal écrit, mais bon, c'est pour moi, c'est la finance qui lâche en premier, je sais pas, mais qui tourne sur des dynamiques très rapides et qui peut déclencher des crises systémiques en quelques heures ou quelques jours, heures même, hein, ou minutes. Enfin, ça peut être très important et massif en très peu de temps. Alors que le climat, la biodiversité, c'est des chocs ponctuels, mais c'est des échelles de temps beaucoup plus longues, de l'ordre de l'année, dizaines d'années, voire du siècle. Et bien plus, mais en tant qu'impact, c'est long. Là, on a bien vu la nouvelle des oiseaux qui disparaissent en Europe. Ça touche profondément les gens. Mais c'est quelque chose qu'on met 20 ans à mesurer scientifiquement. C'est compliqué. Ça touche les pesticides, ça touche l'agriculture, ça touche plein de choses. Ça touche le fait d'enlever les haies dans les champs, ce qui est une politique qui a été lancée il y a 50 ans. Du coup, c'est du temps long. Alors qu'une crise avec les robots qui passent des ordres, les robots boursiers, là, tout ça, c'est de l'ordre de la microseconde. Donc, à mon avis, ça a une capacité d'étincelle. En fait, là, on baigne dans une odeur de gaz et on ne sait pas d'où viendra l'étincelle. La finance, pour moi, il y a des catastrophes industrielles majeures. Ça peut déclencher des effets en cascade. Un site Céveso, un site nucléaire, etc. Ça peut déclencher des mouvements dans les chaînes d'approvisionnement, des confinements, de panique, ou alors de réactions politiques ou géopolitiques inattendues, genre des conflits, etc. Donc il y a une étincelle au niveau des accidents. Et forcément, pourquoi accident? Parce que c'est venu, parce qu'il y a des conflits sociaux aussi, il y a des grèves qui peuvent faire des blocages et du coup déclencher des catastrophes. Enfin, c'est complètement imprévisible et on a un million d'étincelles possibles. C'est pour ça que dessiner un scénario, c'est de la fiction, on peut pas prévoir. Moi, je prévois rien du tout.
T'as toujours la même échelle de temps?
Bah, à peu près. Disons que l'intuition, c'est qu'on peut pas envisager qu'il se passe rien avant 2030. Pour moi, c'est pas possible. Enfin, c'est impensable. 2020, ça se rapproche vite.
Ouais.
Nous, on a écrit le bouquin en 2014. On se disait, oh, 2020, c'est large. Mais t'as vu tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, quatre ans. C'est fou tout ce qui s'est passé. C'est plus grave que ce que j'avais imaginé en 2014. Alors oui, il y a toujours des bagnoles, il y a toujours du pétrole et tout ça. Le prix est toujours bas, du coup, ça a bien détruit l'industrie de prospection. Mais il y a toujours de l'essence dans les pompes à essence, donc c'est difficile. Pour moi, les chocs majeurs, ils ont déjà commencé. C'est un peu lent. Il n'y a pas de.
Est-ce qu'il faut essayer de ralentir ou est-ce qu'il faut essayer d'accélérer l'effondrement? Enfin, est-ce qu'il faut, c'est pas le bon mot, mais...
Mais chacun l'interprète à sa manière. C'est très bizarre que le film Demain, par exemple, moi je l'ai vu, j'ai vu les gens applaudir, j'étais enthousiasmé, ça a permis... il y a des critiques, il y a des choses bonnes, etc. Mais en tout cas, ça a fait avancer la cause. Mais quand on demande aux gens, j'ai fait un questionnaire et puis j'ai fait un petit sondage. Est-ce que les solutions du film demain, moi déjà j'aime pas parler de solutions, mais bon, est-ce que les solutions du film demain permettront d'empêcher de ralentir ou d'accélérer l'effondrement? Et j'ai posé ça, j'ai eu environ 400 réponses sur le mur Facebook là. Et en fait, il y a personne qui a répondu, ça servira à éviter l'effondrement. Et la moitié ont répondu à accélérer et l'autre moitié à ralentir. Donc c'est vraiment une question d'imaginaire, d'interprétation, etc. Pour moi, tu parles des solutions.
Non, je dis est-ce qu'il faut
le ralentir ou l'accélérer?
Ben, ouais, parce que finalement le système en place il est tellement néfaste, enfin que même si ça, enfin certainement ça sera, il y aura plein de drames et tout, mais enfin, on se dit quand même, le système est toujours plus fort, toujours plus résistant, quoi.
Résilient, ouais, bien sûr. Mais ça dépend du point de vue, parce que évidemment, on aimerait éviter diminuer le nombre de morts, pour reprendre l'expression d'Yves Cochet. Mais ça, ça veut dire quand même que ça soit pas trop brutal, l'étaler dans le temps, donc il y a quelque chose de l'ordre du ralentissement. En même temps, si on se place du point de vue des oiseaux ou des insectes ou de la biodiversité, ben on n'a qu'une envie, c'est de l'accélérer pour qu'on arrête un peu de bousiller la planète. Donc c'est très, les contradictions, elles sont en nous. C'est pas, il y a pas de réponse blanc ou noir. C'est compliqué, et je sais pas. D'ailleurs, ça veut dire quoi, effondrement? Ouais, si on a un blackout en Europe, je suis en train de lire un roman là qui est excellent, qui s'appelle Blackout justement, où l'Europe subit un blackout, il y a plus d'électricité en Europe, mais pendant 10 jours, c'est énorme. Et puis les États-Unis, etc. Ça, c'est une sorte d'effondrement, mais ça a rien à voir avec des scénarios climatiques du genre. Ben, il reste 200 millions de personnes, 200 millions d'humains en 2100, avec, ça veut dire, 7 milliards ou 8 milliards de morts. C'est différentes ordres de grandeur, différentes réalités, et c'est le même mot. Donc, tu vois, quand tu dis l'effondrement, ça arrivera avant 2030, voilà, qu'est-ce qu'on entend? Mais, en tout cas, des chocs majeurs qui modifieront notre manière de vivre, ici, en Europe, dans les pays riches, industriels, parce que ça existe déjà, des effondrements dans le monde. Là c'est vraiment européano-centré sur les riches. Ouais, avant 2030, c'est sûr. Là, voilà, début 2020, même peut-être avant. D'ici, enfin, d'aujourd'hui à 2025, je pense que notre mode de vie va radicalement changer.
Et sur le mot même de collapsologie, est-ce que... on a l'impression qu'il y a un débat sur le terme même, et que pas mal de gens essayent d'évaluer le statut de science de la collapsologie ou de discipline et passent plutôt du temps sur ça plutôt que de regarder les faits. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Ben, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup de gens, mais le mot a été bien accueilli. Il est assez intuitif, il permet de mettre un mot sur quelque chose qui était pas un peu flou, ça permet d'en parler, ça permet de rigoler aussi, et puis de se dire, ah voilà, il y a quelqu'un qui s'en occupe, une discipline scientifique, et puis ils vont voir, en fait, il n'y a pas d'université, il n'y a pas de master en collapsologie, encore que ça démarre, il y a des thèses et des, qui s'occupent de ce thème. Mais, c'est pas officiel. En fait, pour que ça devienne une science, il faut qu'il y ait des organismes de recherche, des chercheurs, il faut qu'il y ait peut-être des diplômes, des journaux, un Journal of Collapsology, avec des experts, des comités de lecture, etc. Donc ça viendra peut-être si les scientifiques s'en emparent. Moi, je suis sorti de la recherche académique, donc je peux pas lancer une discipline à moi tout seul. Déjà, j'ai pas de crédit, j'ai pas de poste. Donc nous, on a lancé ça, c'est dans l'air. Si les scientifiques prennent ça au sérieux, et il y en a qui prennent ça au sérieux, mais s'ils veulent adopter cette étiquette, ça va démarrer dans les années qui viennent. Après, est-ce qu'on aura le temps? Je sais pas. En attendant, c'est une proposition de discipline scientifique. Alors, est-ce que c'est une science? Ben, j'en sais rien. On a compilé des travaux scientifiques, mais le problème, c'est que juste la science, pour moi, n'est pas capable de prendre la mesure de cette question, et encore moins de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ressentir, etc. Donc pour moi il faut aller beaucoup plus loin que la science. Il faut d'autres outils que la science. Il faut pas rejeter la science, mais il faut utiliser d'autres choses, et du coup on sort de la science forcément si on prend parti, ou si on s'exprime sur la métaphysique. On n'est plus dans la physique, sur la métaphysique, je sais pas, l'éthique, la spiritualité, que sais-je encore, tout ce qui sort du domaine de la science, bah ça touche l'effondrement. Je dirais même on en a besoin d'aborder ces thèmes, et ça devient non scientifique. Donc effectivement, on sort de la stricte science de la collapsologie. Pourtant, voilà, donc il faut inventer d'autres mots. Il faut inventer d'autres postures, et il faut faire évoluer la chose. Mais je pense pas qu'il faille rejeter. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de polémique là-dessus.
J'ai rencontré des étudiants qui voulaient faire des thèses ou des masters sur ces sujets. Il y en a plein. Mais du coup, ils ont l'air assez embêtés quand même, parce qu'ils savent pas comment, par quel bout s'y prendre, dans quelle discipline, et de trouver des gens pour les soutenir. Exact. Et c'est ça,
pour encadrer les mémoires, il y a personne.
Dommage. À part Dominique Bourg.
Qui a des étudiants là-dessus, effectivement. Et il faut trouver un prof ouvert d'esprit, audacieux, courageux, qui a des crédits, qui a déjà une réputation solide, qui craint pas de se faire brocarder, etc., qui trouve des crédits, faut que ça colle bien avec les étudiants. Mais c'est compliqué, la science, hein, dans les rouages. C'est aussi pour ça que je suis sorti, parce que ça prend trop de temps. On passe notre temps à chercher des crédits, etc., et à faire des dossiers qui sont refusés, tout ça, c'est compliqué. Et puis, tu mets 2 ans à écrire un tout petit article dans un... Imaginons, j'écris un article scientifique sur l'effondrement dans Journal of Archaeology, machin chose. Ça sera en anglais, personne ne le lira, l'accès est payant, et ça sortira dans 4 ans. Qu'est-ce que j'ai gagné, moi? Une ligne dans mon CV. Je pourrais même pas, peut-être même pas postuler. Ça suffira pas pour que j'ai un poste. Et puis voilà. Donc, c'est pas ça qu'on a voulu faire. Nous, on a voulu informer un maximum de gens.
Et vous êtes en train de rédiger le tome 2?
Tome 2, on aimerait bien 3 et 4. Et puis d'autres choses. Et puis surtout, on fait des liens avec plein d'autres choses qui s'écrivent. Hein. Je pense, y a déjà toute la collection Anthropocène, tout ce qui va sortir et tout ce qui est sorti. Il y a le dernier carton là de Au lien qui libère de Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares, magnifique. Enfin, tout ça est dans cette nébuleuse, cette mosaïque. Nous, on a écrit le tome 2 parce que on sent qu'il y a besoin d'approfondir ce thème de comment on vit avec, sorte de transition intérieure, de psychologie de l'effondrement, le deuil, tout ça. C'est bien c'est sympa de parler du deuil, mais concrètement, ça veut dire quoi? Comment on fait? Parce que beaucoup de gens sont seuls face à ces questionnements. Donc pour moi, c'est la première étape avant d'aller plus loin, et on aimerait bien continuer, parce que le tome 1, on a écrit que 10% de ce qu'on voulait écrire, on est très frustrés. Du coup, on a encore plein de choses à dire, plein de bibliographies à éplucher, à commenter, à analyser, à transmettre, quoi. Et donc, voilà, pour moi, il y a plein d'étapes, plein de sujets, hein, sur les dynamiques d'effondrement, la démographie, est-ce qu'on va tous s'entretuer? Bon, on a déjà bien répondu dans l'entraide, mais il y a encore des choses à faire. Et la question phare, clé, c'est la politique de l'effondrement, pour moi. Et c'est comment on s'organise. Et pour moi, c'est trop tôt de tenter d'y répondre maintenant, avec le peu d'outils conceptuels, expérimentaux qu'on a. C'est très casse-gueule, un risque de faire des conneries. Donc pour moi, il faut que la collapsologie se doit d'abord d'élargir plein de champs de recherche et de préparer l'arrivée de cette question. On peut commencer à y penser déjà, mais c'est trop tôt d'arriver avec des solutions. Je pense pas déjà qu'il y ait des solutions, mais en tout cas avec des chemins à prendre clairs et nets, c'est compliqué. Et on risque de faire des conneries. Mais ça, c'est l'horizon, ouais, c'est clair. D'ici, ça serait top de réunir un réseau de collapsologues, de peut-être se faire financer, avoir un think tank, j'en sais rien, moi, de voir les choses un peu en grand. Et d'ici 2-3 ans, publier un grand ouvrage collectif sur politique de l'effondrement. Alors, il y a l'Institut Momentum qui a commencé, hein, et ils ont fait 3 tomes. Ouais. Voilà, politique de l'anthropocène, sur la décroissance, sur l'économie de la décroissance, tout ça. C'est des super pistes de recherche. Faut continuer le boulot. C'est exactement ça qu'il faut faire. Et nous, on apporte juste une petite pierre. Le tome 1, c'était comprendre le bazar. Sans juger, sans rejeter la cause à la personne. On n'a pas touché la grande question des causes. Ouais. Et ça, c'est un grand...
C'est quand même un tour de force de parler, dans autant de pages, de pas parler ni de capitalisme, ni de libéralisme.
Attends, mais des causes, je t'en trouve 25 en 2 minutes. Il n'y a pas que le capitalisme. Mais ça, c'est passionnant, les causes. Et ça, c'est peut-être un autre tome ou quelqu'un d'autre qui l'écrira. Mais déjà, comprendre. Hein. 2, apprendre à vivre avec, encaisser le choc. 3, comprendre peut-être les dynamiques d'effondrement, les causes, peu à peu. Et après, on en vient à qu'est-ce qu'on fait. Une fois que t'as compris tout ça, je pense que déjà travailler sur les causes, en filigrane, t'as comment on peut résoudre un peu les problèmes ou prendre des chemins. Mais comprendre les causes, c'est balèze. Ça se fait pas en 30 pages ou en un chapitre ou en un article sur contre le capitalisme. C'est pas du tout ça. C'est vachement plus profond. Parce qu'encore une fois, faut penser de manière systémique et transdisciplinaire, inviter plein de gens. Il y a les artistes, les scientifiques de toutes disciplines. C'est chouette, c'est ça qui est chouette.
Et du coup, pour la partie transition intérieure, comment ça s'est passé pour toi, la courbe de deuil? Comment tu l'as... En combien de temps?
Comment... Ça, je le raconte souvent en conférence, mais c'est... Pour moi, c'est le premier choc dont je me souviens, parce que ça fait quand même des années que je touche à l'écologie. Hein. J'ai fait ma thèse sur l'éco-éthologie, donc le comportement des animaux et l'écologie. Donc je suis écologue en quelque sorte. Mais un grand choc, ça a été le livre de Rob Hopkins, qui, Manuel de transition, qui a relié le pic pétrolier et le climat. Pour moi, c'était énorme. C'est énorme parce que ça change tout. Et il n'y a pas moyen de s'échapper. Tu as beau retourner le problème dans tous les sens, tu peux pas t'échapper. Et ça, ça a été, voilà, c'était 2008, c'est sorti en anglais, 2010 en français. 2010, on s'est mis en éducation populaire justement sur le thème de la transition. Et là, j'ai découvert plein de choses. Et alors, j'ai une succession de oh my god points, c'est des points oh my god, que j'ai fait la liste et j'encourage tout le monde à faire la liste. La date, qu'est-ce qui s'est passé, quel est le déclic et l'émotion ou un commentaire sur ce qu'on a ressenti. C'est important parce que moi j'ai passé une soirée à faire ça et en fait en regardant la liste énorme, j'en ai trouvé une quarantaine. C'est pas juste « Oh, j'ai eu un déclic et je me suis converti à la religion des fondements », c'est pas du tout ça. C'est un truc de très graduel. Et quand on voit les théories du deuil en psychiatrie, on dit que c'est 2 ans minimum un deuil. C'est 2 ans minimum. Des mois et des mois et des mois. Et moi, nous, on est là avec Raph, c'était... voilà, depuis... Raph, il faisait déjà des conférences sur le pic pétrolier en 2006-2007. Moi, ça a commencé en 2008-2009. Donc voilà, ça fait une dizaine d'années. Et on a encore des surprises. Donc, c'est très progressif. Et pour vivre ça, moi, j'ai eu besoin, et c'est pas une règle générale, je sais pas comment... Enfin, il n'y a pas de règle générale, mais j'en fais pas un conseil, mais je pense qu'il faut... Enfin, moi, j'ai eu besoin de stabilité psychologique, sociale, émotionnelle. Je suis entouré d'amis, compagnes, famille qui me font confiance, qui rigolent peut-être des fois, mais ils se moquent un peu, mais en fait, ils y croient un peu quand même, et parfois beaucoup. Et donc, ils sont là-dedans. Ils sont ouverts à tout ce que je sors. Il ne faut pas une dissociation entre moi et mes écrits. Et donc, ça, c'est important de ne pas être seul, de ne pas se sentir seul. La résilience intérieure, ça passe d'abord par pas être seul, quoi. Sinon, si on est tout seul, on n'encaisse pas les coups. Après, il y a le plaisir de vivre de ça et d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude. Donc, enclencher des boucles de rétroaction positive, en fait, de reconnaissance par les conférences, les articles que j'ai écrits. Tu vois, si mes premiers articles, mes premières conférences, les retours a été mauvais, j'aurais jamais continué. Donc c'est des petites boucles au début qui te font que t'en fais une deuxième et puis tu fais un deuxième article et puis on te dit ah mais c'est super, mais du coup t'en fais 3 etc. Et à un moment de fil en aiguille, c'est très progressif aussi. Donc comment je tiens, il y a aussi un parcours on va dire intérieur, spirituel, ou comment on peut dire, spirituel c'est un mot, faut à chaque fois expliquer, c'est chiant, mais bon, c'est pas religieux, je suis assez fâché contre les religions. Mais j'ai découvert plein de choses, et en particulier des ateliers, on appelle ça de travail qui relie, the work that reconnects, c'est une, en anglais, donc c'est une méthodologie développée depuis 40-50 ans par Johanna Macy, qu'on a dit éco-psychologue, etc. Mais encore, c'est encore des étiquettes et tout, je vous invite vraiment à vous intéresser à découvrir ça, c'est assez merveilleux. Moi, pour moi, il y a eu l'avant et l'après. C'est clair que la reconnexion aux non-humains, à tous les animaux, les plantes, même aux humains, à nous-mêmes, à nos émotions, à tout ça. Moi, le scientifique, activiste, politique, zéro émotion, voilà, jusqu'à très tard. Pour moi, les émotions, c'était ridicule, c'était risible. J'en avais pas, je pensais que j'en avais pas, etc. Ah non, mais pour moi, c'était la galère pendant longtemps. Et c'est très récent, en fait.
Ah, c'est drôle.
J'ai découvert ça. Ça m'a fait un bien fou déjà, ça fait du bien aux autres, et puis ça m'a fait avancer de manière incroyable dans mon parcours de vie. Donc c'est grâce à des personnes, des rencontres, des méthodologies, des ateliers, des stages, mais ça fait des années que je fais ça du coup. Enfin, peut-être une petite dizaine d'années, mais avant c'était le désert absolu. Je savais même pas qu'on avait des émotions, pour moi c'était extraterrestre, tu vois. Donc c'est pour dire aussi qu'on avance vite. On peut, quand on prend un virage dans la vie, qu'on change de boulot, qu'on change de mari, de copine, de je sais pas quoi, après ça va vite. On peut prendre des virages très vite en fait. Il suffit d'être bien entouré.
Et est-ce que ce serait pas justement intéressant que les scientifiques
montrent aussi parfois plus généralement leurs émotions. Par exemple, je me souviens d'une vidéo que tu avais postée sur des climatologues qui parlaient
qui
de
qui pleuraient, qui parlaient de leurs enfants,
etc. Et c'est fort et ça les décrédibilise pas du tout, quoi. Décrédibilise.
Ah, pour moi, au contraire.
Au contraire, ouais.
C'est ce que je dis dans l'épisode 7 de Next.
Ah oui, exact.
De Clément Montfort, là, c'est pour moi, il y avait un choc. Bah, avec Gauthier, on en parle beaucoup parce que. Et Gauthier Chapelle, qui va écrire, co-écrire le tome 2, là. Et c'est, pour moi, c'est important que le milieu scientifique, donc, ils ont cette culture de pas montrer leurs émotions pour être objectifs, etc. Pour moi, ils arrivent à lâcher, les climatologues, ils doivent lâcher. Moi, j'ai une anecdote qui m'a fait vaciller. Déjà, il y a eu la BD Saison Brune, qui est très, très forte, de, Philippe Squarzoni. C'est un gros pavé où il raconte tout son parcours. C'est très subjectif. Et ça touche les gens. Ça m'a touché profondément. C'était beau. Ça m'a fait pleurer, quoi. C'était, le gars, il parle de ses émotions, de ses doutes, de ses paradoxes et tout. C'est point de vue de l'intérieur qui découvre les grandes catastrophes. Il y a eu ce déclic. Et le deuxième déclic, c'était en Belgique. Un rédac chef d'une revue que je citerai pas, qui me dit, écoute, Pablo, j'ai interviewé un grand climatologue que je ne citerai pas non plus. Eh ben, c'était trop scientifique, voilà, l'interview sur le climat, les prévisions, nanana. Et à un moment, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu dis à tes étudiants? Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'ils se vous voyaient, ouais. Et le climatologue s'est arrêté et s'est mis à pleurer, à chaudes larmes. Un gars très vieux, très sérieux et tout, à chaudes larmes. Et j'ai dit au rédac chef, bah alors, t'as fait, c'est fou, c'est génial, et tu l'as mis dans l'interview? Ah bah non, je l'ai effacé. J'ai pas dit. T'as pas dit? Mais c'est incroyable, c'est l'info, c'est la principale info de l'interview. Il dit, mais non, mais tu comprends, je pourrais pas, il a sa réputation. Tu vois, tous les verrous qu'il y a autour de ça. Et c'est énorme. C'était il y a près de 10 ans. T'imagines si c'était sorti, si, le chemin qu'on aurait fait. Et là, je rencontre des scientifiques, mais même des politiciens, des gens, des activistes politiques qui parlent jamais d'émotions. Ça fait trop féminin, trop faible. Je sais rien, moi. La colère et la colère, ça fait mal vu. La tristesse, c'est un peu. Ça décrédibilise, mais c'est surtout désagréable. La tristesse, la dépression, bah non, t'oublies parce que ça passe pas à l'écran, tu vas déprimer tout le monde, tu vois. Il y a un côté, et puis ça fait, c'est un truc de meuf, alors que le milieu scientifique est très masculin et politique, très masculin. Donc il y a tout ça. Et ce déclic de, que les scientifiques, les hommes politiques, mais merde, à un moment, il y a des politiciens qui sortent des coups de gueule, là. La petite sortie de Nicolas Hulot à l'Assemblée, elle était belle. Ouais. C'est le vrai Nicolas Hulot. Voilà, c'est ancré, ça sort du cœur, c'est profond, ça touche les gens. Bah voilà, c'est ça aussi, la politique, quoi.
Mais comme quoi, c'est vraiment tout le système de valeurs, justement, qu'il faut changer et que ce qu'on identifie là comme de la faiblesse ou de la de la tristesse là, ça soit valorisé à son juste titre parce que ça veut dire aussi beaucoup, quoi.
Ça fait partie de l'humain et sans ça on n'arrivera à rien, quoi. Enfin, ça ôte la moitié de toute notre humanité. Je sais pas comment dire, mais en tout cas les travaux des écoféministes et de, il y a plein de mouvements en ce moment qui apportent beaucoup au niveau théorique mais expérience aussi à toutes ces questions, hein, à la fois en écologie, mais effondrement et politique et tout ça. Il y a beaucoup de renouveau en ce moment.
Ouais, je trouve aussi. Et autour de la question animale aussi, notamment. Ouais. Il y a beaucoup de réflexions intéressantes. Du coup, je voulais savoir comment tu, enfin, je sais pas quel âge ont tes enfants, mais quel genre de discours tu leur tiens, ou est-ce que vous parlez librement de
on
ça, ou ils sont
trop
petits?
Discours, mais ils ont 4 et 6 ans.
Ouais.
c'est un peu difficile, mais.
Mais comment t'imagines que ça se passera?
Bah, moi, j'imagine normal, quoi. Papa, qu'est-ce que tu fais? Mais ils m'ont déjà vu en conférence. Ouais. Et tu dis quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ben, je dis, bah, voilà, je parle d'effondrement, mais c'est des catastrophes écologiques, les oiseaux disparaissent, et puis, bah, je leur dis, mais. Instant, ils comprennent avec leurs mots, leur système de pensée, mais ça, tout est imprégné à la maison. On en parle tout le temps. Enfin, Et on parle, mais c'est pas que d'effondrement, c'est aussi comment faire un potager, comment vivre plus dans le sauvage, aller se balader dans la forêt. Donc ça, c'est pas que les discours, ça imprègne, ils sont imprégnés par les actes, notre manière de vivre, voilà. C'est terrible parce que moi je prends plus l'avion depuis 7-8 ans. Et puis eux, ils sont tout petits, ils parlent de dinosaures, de Spider-Man et d'avions, de fusées. Ils disent, papa, moi un jour j'irai dans un avion. Et tu es déjà allé dans un avion, papa? Et tu vois, et ça me pince le cœur de dire, bah ouais, plein de fois, et j'ai décidé de plus le faire. Et moi, je pourrais y aller. On verra plus tard. Non, mais oui, j'ai envie qu'ils le fassent, mais c'est délicat, tu vois.
Et là où vous habitez, t'essayes d'avoir une forme d'autonomie un petit peu dans ta maison.
La base, hein. Ouais. C'est la base de tout. C'est ça qu'apporte les mouvements survivalistes. C'est vraiment hyper intéressant ce qui développe. Comment, tu vois, ils font de la permaculture, ils se mettent en réseau, ils apprennent. Mais apprendre. Rob Hopkins dans son bouquin, il dit ça aussi. Hein, faire un potager ensemble, refaire des confitures, planter des noyers au lieu des arbres décoratifs. Bah, c'est quoi sinon se préparer? Juste à l'échelle collective.
Ouais, mais c'est plus que, enfin, d'après ce que je comprends, dans le mouvement de la transition, on fait ça tous ensemble. Et
Il y a le côté tout seul ou tous ensemble, mais encore, c'est un éventail, c'est pas blanc ou noir, il y a des niveaux de gris. Et puis, parfois, tu peux être tout seul, parfois, tu peux être à plusieurs. Ça dépend de la commune où t'habites, de ta compagne, ton compagnon. Ça dépend de tellement de choses, si t'as des enfants ou pas, de si t'as de l'argent ou pas. Parce que quand t'as pas d'argent, t'es dans l'entraide obligatoirement, vite dans le collectif. Et quand t'as de l'argent, bah, tu fais vite des choses tout seul et c'est plus facile d'être tout seul. Et d'emmerder les voisins. Donc, mais en même temps, tu peux avoir de l'argent et t'associer à des gens et favoriser les projets collectifs. Donc tout est plus compliqué. En tout cas, oui, l'autonomie, c'est évident que tous les citoyens, tous les habitants des pays industrialisés devraient développer plus d'autonomie chez eux, dans leur quartier, toutes les échelles. C'est pas juste nous, parce que développer son autonomie à soi tout seul. Imagine, t'es le super survivaliste, tu sais survivre à tout, mais t'es le seul dans ton quartier, bah ça te sert à rien. Si le quartier survit pas, bah c'est la merde pour tout le monde. Donc évidemment, c'est à toutes les échelles qu'il faut, et c'est en fonction des affinités de chacun, des affinités de. Il y en a qui seront plus portés vers la politique, donc ils iront faire du lobby à l'Europe, d'autres qui organiseront le conseil municipal pour gérer le quartier, d'autres qui iront faire un potager, et d'autres qui s'achèteront tout le super matos, le sac à dos. Le dernier couteau ou faire des stages de survie douce parce que leur trip c'est la forêt, mais il faut de tout en fait. Mais surtout il faut faire du lien entre tout ça, c'est ça le plus important.
Et qu'est-ce que ça te fait toi de faire face depuis toutes ces années à autant de déni et d'inaction de la part de à la fois des politiques, des dirigeants d'entreprise.
Colère surtout les dirigeants, enfin les gens qui ont des leviers et qui savent, ça m'énerve quoi, et qui font rien. Alors soit ils s'auto-censurent, soit ils essaient, ils y arrivent pas, ils persévèrent pas, soit carrément ils oublient, et ça c'est vraiment ça me met en colère. Après, moi, je comprends le déni. Hein. Ce déni, c'est très naturel, normal, logique et tout. Et on est dans des sociétés tellement grandes, il y a des grandes échelles, et l'inertie est énorme pour faire bouger les choses. C'est énorme, énorme, énorme. Voilà, quand on voit tous les freins qu'il y a, tous les verrouillages, dans tous les sens, hein, psychologique, politique, médiatique, économique, c'est la folie. Du coup, je comprends, j'essaye justement de comprendre dans les deux sens du terme. Je comprends, et j'essaye de comprendre pour les déverrouiller, justement. Je suis beaucoup plus serein maintenant par quelques personnes qui pourraient faire avancer les choses et ça m'énerve, mais globalement, c'est normal qu'il y ait autant de déni. Hein. Enfin,
mais est-ce qu'il n'y a pas... est-ce que les élites ont... oublier l'idée d'un monde commun ou abandonner cette idée.
Non, mais là aussi, c'est quoi les élites, tu
vois? Non, une partie des élites. Biodiversité
voilà. D'élites.
Non, mais tu vois.
Il y a clairement une guerre des classes, et la classe des riches a gagné, comme dirait l'autre, Warren Buffett. C'est voilà, François Ruffin le dit très bien. Il y a une classe qui est en train de tout détruire, qui a partout, du coup, qui augmente les niveaux d'inégalité de manière, c'est hyper toxique pour la société. Ça crée des super pauvres, mais ça crée surtout des tensions et des conflits, des guerres et tout ça. Mais c'est, pour moi, c'est irresponsable. Et je comprends pas qu'ils sachent pas ça. C'est évident qu'ils vivront eux-mêmes dans un monde de merde s'ils continuent. Et c'est pas une question idéologique qu'il faut qu'on soit tous à égalité. C'est même pas ça. C'est que si tu partages pas, bah, tout le monde meurt, quoi.
En fait, je trouve ça vraiment difficile à comprendre.
Ouais, c'est vraiment bizarre. Et en fait, sociologiquement, il y a des super études qui montrent que t'es en vase clos, t'arrives, enfin voilà, c'est des milieux qui se cloisonnent et du coup, là, encore une fois, la pensée s'ouvre pas, il n'y a pas de décloisonnement. Moi, j'essaie de décloisonner toujours dès que je peux, mais voilà, les ultra riches vivent ensemble et ils se racontent leurs histoires et puis finalement ils oublient le reste du monde. Mais pas que les ultra riches, il y a plein de milieux, c'est comme ça en fait. Et le pire, c'est que c'est de plus en plus dur de décloisonner parce que c'est de plus en plus stratifié. Alors il y a un cloisonnement horizontal et vertical et c'est hyper toxique en fait. Et le problème, c'est qu'ils ont institutionnalisé tout ça. Certaines élites politiques et économiques qui en plus sont de mèche quand même pas mal. Et sans parler de grands complots, hein, c'est évident, enfin, sociologiquement. Et ils ont institutionnalisé, ça veut dire que ça crée des dynamiques automatiques. T'as même plus besoin d'une mauvaise personne avec une mauvaise intention. C'est juste, moi je fais mon boulot, et puis j'ai juste fait mon boulot. Tu vois, c'est la banalité du mal de Hannah Arendt, quoi. C'est ça. Voilà, il y a plein de mécanismes, encore beaucoup de boulot de collapsologie pour décrypter tout ça et essayer de passer outre et essayer de déverrouiller, quoi.
Ouais. Et en quoi tu gardes espoir ?
Alors, l'espoir, c'est compliqué. Moi, j'ai un peu une dent contre l'espoir.
Ah.
C'est compliqué. Mais pour simplifier, je risque de dire des conneries, hein, mais je pense qu'on va démêler cette question dans le tome 2. L'espoir, ça rend aveugle des fois, et j'ai remarqué qu'il y a des gens qui sont à fond tournés vers l'espoir. En fait, ça fait un mauvais mélange quand il y a du déni à côté. C'est-à-dire quelqu'un qui est à fond dans l'espoir, très positif et tout, mais qui veut pas voir les mauvaises nouvelles, ça c'est très toxique, je pense, dans les attitudes, dans la posture et dans l'action. Par contre, il peut y avoir de l'espoir même dans les mauvaises nouvelles, comme voilà, un pied dans les mauvaises nouvelles, un pied dans l'enthousiasme, on va dire. Ok, ça va. Et puis, quand t'as zéro espoir, là, c'est aussi toxique. Donc, l'espoir, je pense qu'il faut éclater le mot, encore une fois, en plein de notions. On met tout dans le même panier, il y a plein de manières de voir l'espoir différent. Alors, il y a des chrétiens récemment qui me disaient, il faut que tu parles d'espérance. Alors, je sais pas encore ce que ça veut dire. C'est pas très clair dans ma tête, mais je pense qu'il y a une piste à creuser là, pour éclater les notions et commencer à utiliser les bonnes formules et les bons mots. Et il y a aussi, j'ai appris que les bouddhistes, en fait, ils détestent l'espoir, parce que ça les sort du moment présent, ouais. et du coup, c'est pas cool.
T'es plus ancré,
t'es dans autre chose et tu perds le plaisir de la vie et puis l'action concrète. En fait, on peut agir. Alors, c'est ce que Johanna Macy, justement, dont je parlais tout à l'heure, appelle l'espoir actif, active hope. Et elle est bouddhiste, justement. Et elle déteste l'espoir. Et elle a créé la notion de active hope. C'est faire aujourd'hui, dans le moment présent, ce qui te semble être le plus cohérent pour toi, pour l'avenir, mais sans avoir de projection, sans savoir si ça va marcher ou ça va pas marcher. On s'en fout. Tout ça, c'est des questions qui te projettent dans l'avenir et qui te sortent du présent. Juste agir aujourd'hui, ce qui te semble aligné avec ta posture, etc. Et y aller, même si on n'a aucune chance, tu y vas. C'est ça l'espoir actif.
Et donc, en fait, on revient aussi à l'action et au rôle de l'action. C'est finalement essentiel. C'est ce qui permet de pas devenir fou, quoi. Et qui permet de... Oui. Voilà,
d'enclencher des boucles de rétroaction. Voilà. Mais il y a deux choses, c'est-à-dire que quand tu découvres des choses, donc tu fais une petite action, et la petite action, elle te rapporte quelque chose, tu rencontres des gens, t'as un peu de reconnaissance, je sais pas, ça te donne du plaisir qui te permet de revenir dans les mauvaises nouvelles et d'accepter encore plus de mauvaises nouvelles et d'agir encore plus, et ça fait une boucle de rétroaction qui finalement tu fais des grandes choses et ton parcours de vie change et tu prends un virage, une transition intérieure ou je sais pas comment on l'appelle, inattendu. Et il y a aussi je voulais dire un autre truc mais j'ai oublié. J'ai découvert qu'il y a des... Alors moi, j'ai besoin de tout comprendre avant d'agir. Voilà, je suis comme ça, je dois tout lire. J'ai un bibliophile, bibliopathe parfois. et une fois que j'ai tout compris, j'agis. Et en fait, il y a des gens, c'est pas du tout ça. Ils s'en foutent de comprendre, ils doivent agir. Et c'est en agissant qu'ils comprennent. Ça, j'ai mis du temps à comprendre. En fait, il y a une biodiversité, encore une fois, d'attitude par rapport à l'action. Il y a des gens, ils sont que dans l'action. Ils veulent pas lire de livres, tu vois. Moi, ça me semble fou. Et il y a des gens, ils veulent que lire de livres, ils veulent pas agir. Voilà, il y a de tout, il faut tout pour faire un monde. Mais globalement, il y a une coévolution entre une interaction vraiment essentielle entre compréhension et action. Et il y a un troisième pôle, c'est le cœur, quoi. Et combiner les trois en équilibre, moi, j'ai trouvé ça dans le mouvement de la transition. Rob Hopkins, il est très équilibré. D'ailleurs, son bouquin, c'est trois parties, hein. C'est la tête, le cœur et les mains. C'est clair. Déjà en 2008, il avait tout capté.
Et qu'est-ce que tu penses qui est dans nos sociétés là un sujet fondamental qui est le plus mal compris, qui pourrait être un déclencheur. Je sais pas, par exemple, le fait de pas visualiser ce que c'est qu'une exponentielle ou tu vois un truc énorme.
Exponentielle, ouais. Il y a la complexité, les systèmes complexes. Alors là, pour moi, c'est essentiel et personne capte. Il y a le chaos, l'auto-organisation, enfin tous les sciences de la complexité, c'est... Edgar Morin a beaucoup fait, mais il s'est fait pas mal critiquer pour ça. Donc pour moi, il y a un grand travail à faire là-dessus. Et le grand truc que pas beaucoup de monde comprend, c'est l'écologie. Mais l'écologie, la science des interactions, la vraie écologie, quoi, je veux dire, la science. Et du coup, la pensée systémique, mais tout ça c'est lié, ce qui mène évidemment au principe du vivant. Et en fait, les gens, ils comprennent pas, ils arrivent pas à intégrer les principes du vivant, de fonctionner en cycle, les 12 principes de permaculture. Putain, mais c'est l'évidence même. Et c'est en fait, il a décrit les principes du vivant. Mais comment fonctionne le vivant? Et nous, les humains, on a l'habitude de fonctionner à l'inverse de ces principes. On a vraiment du mal à les comprendre. On peut parfois un peu comprendre, mais on les ressent pas, on comprend pas les subtilités. On n'est pas en phase avec ça. Je dis « on », c'est beaucoup de gens, peut-être pas tout le monde, hein, mais globalement, ça, il y a un grand, grand travail pédagogique à faire. C'est compliqué, hein, parce que tout est systémique, tout se tient. C'est dur d'expliquer de manière linéaire des choses cycliques et systémiques. C'est hyper dur. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'on a du mal, mais...
Et pour finir, bravo pour la chronique de la collapsologie dans l'émission sur RFI. Du coup, c'est un truc important aussi.
Anne-Cécile Bras nous a invités pour commencer une chronique collapsologique. Alors, tous les mois, peut-être que ça sera plus fréquent après. C'est chouette.
Elle est assez portée sur les...
Elle est très lucide, elle aime beaucoup notre approche. Et puis, elle voulait nous donner la parole. On a tellement de choses à dire. Après, c'est le temps qui manque. Et puis le format. Moi, la radio, j'en ai pas trop fait. Et voilà, on essaye. On par essai erreur. Peut-être ça marchera pas. En tout cas, c'est une aventure. C'est chouette.
Du coup, ça sera tous les mois.
Tous les mois, on va commencer avec Raphaël et Gauthier. On va tourner. Peut-être qu'il y en a un qui va se prendre de passion pour ça. Peut-être qu'on va arrêter. Peut-être que ça va faire plus qu'une chronique. Peut-être que ça va faire une heure à la fin. Peut-être qu'on va faire toutes les semaines. J'en sais rien. En tout cas, la première est sortie. C'était l'émission où il y a eu Dominique Bourg.
Ouais, ouais. Et c'était chouette.
Merci.
J'espère que ça fera aussi boule de neige et que ça donnera envie à d'autres supports de donner la parole, quoi.
Mais il y en a de plus en plus, comme ton podcast, mais voilà. C'est l'émission C'est pas du vent sur RFI.
Bonne émission.
Mais ça va, je pense, pas mal foisonner, surtout dans le milieu des artistes. Il y aura des films, des BD, des courts-métrages, du théâtre, des danses, tout ça, ça va sortir bientôt.
Ouais, mais je pense que la fiction a beaucoup à faire aussi pour sortir de l'imaginaire classique qui est quand même très très noir, quoi.
Très cloisonné aussi. Ouais. Ouais. Très cloisonné. Très normé, en fait.
Mmh. On a hâte de voir la suite. Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup à Pablo Servigne pour notre conversation et merci à vous tous pour votre écoute et vos commentaires. Pour soutenir Présage, vous pouvez partager les épisodes, vous abonner sur votre plateforme préférée et me mettre 5 étoiles sur iTunes. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belaouel, mixé par Paloma Colombe. Vous pouvez retrouver des liens et des ressources pour approfondir les sujets dont on a parlé sur le site présage.fr. À très vite !